Radio Starbucks.
Morning edition from NPR
News.
France Inter, le 18-20.
Le but est de se connecter profondément à la respiration d'un autre homme, à sa force vitale. Il faut être proche du corps d'un autre homme sans que ça paraisse bizarre. On fait des choses assez folles.
Voilà, ils ne sont pas tous comme ça les Suédois, je vous rassure, mais après MeToo, il y a les déboussolés. Et il y a celles et ceux qui ne perdent pas le nord. On le verra ensemble, c'est l'escale reportage ce soir. Sous les radars et Amélie Perrier avec des campus anglais sous très haute surveillance contre la drogue, les rues de Lagos en embouteillage géant et une Ferrari conduite par un imbécile, disons-le tout net, dans le Haut Atlas. Le Monde selon Trump, saison 2, comme tous les lundis. Grégory Phillips nous racontera la prestation de serment du juge Kavanaugh qui devrait intervenir dans l'après-midi. Et une vidéo aussi qui a tourné tout le week-end mais qui nous fait encore beaucoup rire, ça se passe sur Fox News. Et c'est une histoire de bière, Le Monde à l'envers, de Jean-Marc Four. Le rapport du GIEC fait peur à juste titre. Mais Jean-Marc se demandera s'il n'est pas adressé finalement aux mauvaises personnes. Mais tout de suite, je vous emmène sur des champs de bataille qui n'ont ni bombes ni fusils. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
La Russie a-t-elle orchestré une série de cyberattaques mondiales? C'est ce qu'ont dénoncé plusieurs puissances occidentales, dont la France d'ailleurs. Jeudi dernier, en cause une tentative de piratage menée au siège de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. C'est aux Pays-Bas, ça s'est passé au mois d'avril. Moscou d'ailleurs, aujourd'hui, a demandé des preuves, des exemples. Il y en a d'autres et il y en a eu d'autres. Satellites stratégiques hackés, hackers en Corée du Nord aussi qui s'attaquent à des banques. L'Ukraine attaquée, vous vous souvenez de l'Estonie il y a quelques années, qui était un petit peu le grand zéro de la cyberattaque. Alors, est-ce que la troisième guerre mondiale a commencé? Est-ce qu'elle est cyber? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bonsoir Olivier Kempf.
Bonsoir.
Vous êtes consultant cyber, vous dirigez le cabinet stratégique La Vigie. Vous avez écrit notamment Introduction à la cyberstratégie, c'est chez Economica. Et bonjour à vous Thierry Berthier.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à la chaire de cyberdéfense et de cybersécurité à l'école Saint-Cyr. Et vous êtes avec nous depuis nos studios de France Bleu Limoges. Merci à nos amis de Limoges. Je vais poser la question comme ça à tous les deux peut-être. Tiens Thierry Berthier, vous qui êtes à Limoges. Est-ce que la cyberguerre à bas bruit, la troisième guerre mondiale en cyberguerre à bas bruit, a commencé? Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça ou pas?
Alors, troisième guerre mondiale, attention, il faut quand même être modéré dans les propos. Qu'il y ait une cyberconflictualité latente et permanente et avec des pics par moment, ça c'est une certitude. Après, on peut pas parler de guerre mondiale. Enfin, c'est pas de même nature. Hein. Je pense que général Kempf pourra confirmer.
Alors, j'ai évidemment fait exprès de grossir un petit peu le trait, mais est-ce que ça veut dire Olivier Kempf qu'il y a toujours une guerre en cours finalement désormais au fond?
Alors, je rejoins Thierry, c'est pas forcément le mot guerre, mais conflictualité, oui, et pourquoi pas guerre? Parce que y a pas de mort. Mais en revanche, ça fait rage, c'est omnidirectionnel, toutes les puissances contre toutes les puissances, et surtout tous les acteurs contre tous les acteurs, c'est-à-dire les États, les entreprises, les individus, les pirates. C'est ça qui a réellement changé, et ça, c'est effectivement quelque chose de très nouveau. Et c'est effectivement une sorte de conflit de tous contre tous.
Alors attendez, vous dites qu'il n'y a pas de mort. Alors c'est vrai, effectivement pour l'instant il n'y a pas de mort, mais est-ce que c'est parce qu'on ne le veut pas ou parce qu'on n'y est pas? Je vous pose la question parce que dérégler un satellite, par exemple, ça peut avoir aussi des conséquences qui peuvent être des conséquences importantes, y compris pour des vies humaines. Si on décidait de hacker, je ne sais pas moi, une tour de contrôle de JFK ou un aéroport de cette ampleur-là, ça veut dire qu'il peut y avoir des morts. Donc est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas jusqu'à cette extrémité ou qu'on ne sait pas encore?
Les deux, mon général.
Ah.
Je crois qu'on ne veut pas. Je crois que on pourrait effectivement avoir des événements dramatiques. Je constate que ça fait une dizaine d'années que je travaille sur le sujet. Ça fait 20 ans qu'il y a des publications. Ça fait 20 ans qu'on nous parle de ce que les Américains appellent un cyber Pearl Harbor. Mm-hmm. Ça fait 20 ans qu'on ne voit finalement pas de choses. Mais parce que finalement, c'est dans l'intérêt de tout le monde, parce que cette conflictualité à bas bruit permet d'abord de faire énormément d'espionnage, et c'est ça le plus intéressant dans le cyber. C'est l'espionnage. C'est pas l'agression, c'est un peu la subversion maintenant, mais c'est surtout l'espionnage. Et c'est d'ailleurs, si vous nous invitez, c'est à cause des événements récents, mais cet espionnage, il est réellement de tous contre tous. Mmh. Les Coréens, les Chinois, les Russes, les Américains, les Anglais.
Ça veut dire que le but, en fait, c'est de quoi faire? C'est de déstabiliser les entreprises, c'est de discréditer un pays, c'est de faire fuir les investisseurs, c'est des choses de ce genre-là en fait.
C'est surtout de prendre conscience que la donnée, l'information est maintenant un nouveau facteur de production, c'est réellement le carburant du 21e siècle, celui qui fait la richesse. Et plus vous avez de l'information, et notamment de l'information stratégique, plus vous êtes puissant et plus vous êtes capable. Il faut savoir que cette cyberconflictualité porte d'abord sur des affaires économiques. 90% de l'activité de la NSA américaine est sur des affaires économiques et pas sur des affaires politiques.
Parce que finalement, les bases d'un pays, j'imagine là-dessus, vous êtes d'accord aussi, Thierry Berthier, c'est terrible à dire, mais un pays tient sur son économie, pas sur son armement.
Alors, sur les deux, disons. Hein, l'armement est aussi à sa propre cybersécurité. Les infrastructures critiques du pays, heureusement qu'elles sont, elles sont protégées. Donc, là, en France, vous avez des instances qui font ça. Les deux, à mon avis, il faut les deux.
Est-ce que la cyber-conflictualité, aujourd'hui, redistribue les cartes, je vais mettre des guillemets, redistribue les cartes des maîtres du monde? Est-ce que, au fond, aujourd'hui, ceux qui sont le plus forts en cyber-conflictualité sont ceux, de toute façon, qui ont l'arsenal militaire traditionnel le plus fort? Ou est-ce qu'au contraire, on se retrouve avec des acteurs qui sont de tout petits acteurs mondiaux, mais grâce à ça, peuvent faire un mal considérable, en fait?
Moi, j'aime bien prendre l'analogie du foot. Vous avez une première division, vous avez une deuxième division, vous avez une troisième division. Dans la première division, c'est grosso modo les mêmes acteurs que les gros acteurs stratégiques. Cela étant, pas exactement. Je prends un exemple. L'Allemagne a un gros budget de défense. En cyber, ils sont en première division, mais plutôt en deuxième partie de tableau, si vous voulez. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une égalisation de puissance, bien évidemment, sur les deux cadors, que sont les États-Unis et la Chine. Et puis derrière, vous avez un certain nombre d'acteurs, les Russes, les Français, les Anglais, les Israéliens. Peut-être un peu derrière les Suédois, les Singapouriens, voulais-je dire, les Japonais, excusez-moi, les Japonais, etc. Donc, mais cela étant, il faut malgré tout énormément de capacités. Cela étant, on voit des acteurs. Je pense à l'Iran ou je pense à la Corée du Nord, qui, si vous regardez les fondamentaux classiques de la puissance, sont clairement en deuxième ou en troisième division, disons les choses, et qui réussissent finalement à surperformer et à jouer leur partie, même s'ils sont pas capables de gagner le championnat.
Thierry Berthier, est-ce que ça donne une espèce de déséquilibre de puissance? Au fond, il y a un mot, pardon, je vais le dire comme ça, qui est un peu un mot à la mode qu'on a découvert, qui est l'histoire des guerres asymétriques. En fait, on l'a dit beaucoup en parlant de terrorisme. Est-ce qu'on peut parler de guerre asymétrique quand on parle de cybercriminalité ou pas? De cyber-conflictualité, pardon, ou pas?
Ouais, il y a une forme d'asymétrie, notamment dans l'accès aux solutions ou aux armements, entre guillemets, cyber. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ticket d'entrée pour mettre en œuvre des outils d'espionnage ou d'exfiltration de données, il est beaucoup plus faible pour un groupe, pour un État, que ce qui pouvait être dans d'autres domaines plus militaires. Aujourd'hui, on peut avoir accès à des outils très performants qui permettent d'infiltrer certains réseaux, certains systèmes d'information. Et c'est pour ça que, en ce sens, le ticket d'entrée est plus faible et donne de l'avantage aux petits acteurs.
Est-ce qu'il y a un risque pour qu'une cyber-conflictualité dégénère en une guerre plus conventionnelle? Parce qu'au fond, si ça déstabilise la diplomatie, c'est ce qu'on voit par exemple en ce moment, notamment avec les Russes. Alors, on essaye de pas monter à un cran qui serait trop supérieur, mais est-ce qu'au fond, la cyber... J'arrête pas de regarder mes fiches pour pas dire guerre,
non,
et pour dire
conflictualité.
Et je fais très attention à dire conflictualité, mais est-ce que cette conflictualité-là, c'est un prémisse, ça peut être un prémisse à une guerre plus conventionnelle?
Bien évidemment. Évidemment, souvenez-vous, regardez dans l'histoire, vous avez des guerres qui ont été déclenchées pour n'importe quoi. Souvenez-vous du coup d'éventail du Dey d'Alger en 1830, qui provoque une guerre, etc. Donc, les prétextes, à la limite, finalement, sont toujours des prétextes si les deux parties ont envie d'en découdre. Il y a, cela étant, un risque, c'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un veuille tester et aller trop loin. Et qu'en face, on dise, oui, mais là, non, et je ne vais pas réagir que dans le cyber. Je vais réagir sur du conventionnel. Et là, quand vous examinez les doctrines stratégiques des grandes puissances, effectivement, c'est quelque chose qu'elles laissent entendre. Enfin, certains l'affirment clairement, les États-Unis le disent clairement, et d'autres le laissent entendre. Effectivement, il y a des moments où un risque cyber, s'il touche d'assez près aux intérêts vitaux d'une nation, enfin aux intérêts, peut-être pas vitaux, mais très sensibles d'une nation, pourrait déclencher d'autres choses. Donc oui, il faut faire attention. Voilà, je reviens sur la question de tout à l'heure. Est-ce que ça peut? Oui, ça peut. Pour l'instant, ça ne l'a pas fait.
Mais en même temps, quand un missile touche un pays, on sait exactement d'où vient le missile, qui l'a lancé, qui a appuyé sur le bouton. Est-ce qu'on... Là, en ce moment, la Russie demande des preuves, par exemple. Elle a raison, c'est de bonne guerre, pardon pour l'utilisation du mot. Est-ce qu'on sait toujours qui est derrière?
Non, en fait, on ne sait pas.
C'est le paradoxe. Est-ce qu'on peut vraiment savoir qui est derrière?
Voici un outil extrêmement technique, donc on pourrait dire il est scientifique et on est capable de le faire. Or, par un certain nombre de techniques qui sont pour les spécialistes, facile à mettre en œuvre, on n'arrive pas à attribuer. Et finalement, pour attribuer, on va utiliser la méthode de ce qu'on appelle le faisceau d'indices. Mmh. Mais le faisceau d'indices fait que la désignation va être une décision politique. Vous faisiez allusion à l'agression contre l'OIAC aux Pays-Bas. Effectivement, un certain nombre d'alliés se sont rangés aux côtés de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas, des États-Unis pour accuser la Russie. La France a été plus prudente. Elle a dit « Oui, oui, nous sommes solidaires avec nos alliés », mais elle s'est bien gardée justement de faire cette décision d'attribution parce que c'est une décision politique.
Alors comme on l'a fait d'ailleurs dans l'affaire Skripal avant qu'il y ait un certain nombre de preuves, il y a eu beaucoup d'histoires évidemment diplomatiques qui sont derrière. Thierry Berthier, pardon de poser la question aussi naïvement, ça ressemble à quoi physiquement une cyberarmée ? Enfin, est-ce qu'on imagine, parce qu'on avait déjà vu des images de ce genre, des immeubles entiers remplis de hackers, comment est-ce qu'il faut imaginer ça en fait ?
Alors, c'est surtout un groupe de techniciens et d'ingénieurs qui sont encadrés après avec par l'encadrement militaire.
Mais groupe, pardonnez-moi, monsieur Berthier, c'est 5, 10, 15, 20, 50 personnes, ça marche comment ?
En effectif, ça dépend où vous situez. Si vous êtes en Chine, vous avez ça se compte par milliers de personnel. Aux États-Unis aussi, le cybercommande et toutes les sous-sections qui sont à la manœuvre aujourd'hui, ce sont des milliers de d'ingénieurs, de spécialistes des réseaux, de développeurs. Oui, il y a du monde, quoi. Après, ça dépend du pays, ça dépend de son engagement dans le cyber, justement. La règle, c'est qu'on peut aussi, si on veut faire des attaques, on n'a pas besoin de milliers de personnes non plus pour engager une opération. Ça peut être fait avec un petit groupe de personnes qui sont techniquement pertinentes et qui peuvent mettre en place une attaque importante.
Et Olivier Kempf, parce que ça marche comme pour le terrorisme justement, il y a aussi des loups solitaires qui seraient une sorte de hackers mercenaires en fait.
Oui, ça existe. Maintenant, ce sont quand même plutôt des petits groupes. Ce qu'on voit, c'est finalement un phénomène de corsaire. C'est-à-dire que vous avez des pirates qui se mettent à la solde soit de groupes privés, bandes criminelles, soit d'État, pour travailler finalement en sous-traitance. On voit ça en Chine, on voit ça en Russie, on voit ça probablement aussi chez les pays occidentaux, même si c'est plus discret. Pour revenir sur une histoire de chiffres, la NSA, ça on l'a su à la suite des révélations Snowden, la NSA plus l'ensemble des sous-traitants, 100 000 personnes. En France, l'objectif, c'est 3000 personnes. Voilà, ça vous donne des ordres de grandeur. On imagine que la Chine, ce sont des dizaines de milliers de personnes, et la Russie, ça va monter à une dizaine de milliers de personnes. Mais alors là, c'est vraiment du doigt très très mouillé.
Je vais vous poser la question très sérieusement, et ce sera la dernière, puisqu'Antonio Guterres en a même parlé, c'était je crois en février dernier, le patron de l'ONU. Puisqu'il y a cyberconflictualité, est-ce qu'il faut inventer aussi une sorte de cyberpaix ? Sérieusement, une espèce de, je disais ça en plaisantant dans le lancement, mais une espèce de cyber-casque bleu. Après tout, il y a une convention de Genève qui existe pour la guerre conventionnelle. Est-ce qu'on en est à imaginer, est-ce que c'est possible, quelque chose de similaire dès lors qu'on parle de cyber ?
Non, c'est à mon avis pas possible. Pour deux raisons, parce que c'est le fantasme un peu d'un traité international. Qui dit traité international dit faire respecter la loi, à supposer que tous les pays de la planète se mettent d'accord pour signer, ce dont je doute. Mais après, il faut le faire respecter. Et pour faire respecter, il faut finalement des observateurs. Sur le nucléaire, les installations sont tellement gigantesques qu'on peut les voir à distance. Un immeuble d'ordinateur, vous pouvez pas le faire. Et donc, comme le cyber appartient au cœur de souveraineté des États, eh bien, aucun pays, qu'il soit libéral ou pas libéral d'ailleurs, n'acceptera l'intrusion parce que l'intrusion signifie qu'il perd sa souveraineté.
En tout cas, fascinant, passionnant, on n'a pas fini d'en parler. Et ce moment-là, en tout cas, entre les Occidentaux et Lavrov, il est en cours. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup, merci à tous les deux et merci à nos amis à Limoges pour la liaison.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'Un jour dans le monde, ça se passe en Suède avec des conséquences de MeToo, des hommes déboussolés d'un côté, mais d'autres qui ne perdent pas le nord. Laissez-moi vous le dire, les femmes non plus d'ailleurs. En voici une autre qui ne perd pas le nord, c'est Amélie Perrier, sous les radars ce soir sur les campus britanniques qui cherchent de la drogue dans les embouteillages à Lagos et avec un fou du volant au Maroc. 18h50, Le Monde selon Trump et Grégory Phillips. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Fabienne.
Alors il va y avoir une passation de serment qui va être intéressante quand même aujourd'hui et puis une vidéo surtout qui nous fait toujours mourir de rire.
Oui, vous vouliez parler du juge Kavanaugh qui sera officiellement nommé ce soir par Trump, prestation de serment à la Maison Blanche. Et puis on fait ça sur Fox News en ouvrant des bières sur le plateau. Je vous raconterai ça tout à l'heure.
Voilà, c'est de la mauvaise bière et des mauvaises chaises aussi. 18h55, Le Monde à l'envers. Bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Le GIEC crie aussi fort que possible, mais peut-être pas forcément dans la bonne direction finalement.
Oui, les années passent, les rapports alarmistes se succèdent et puis quoi, rien. Ça prouve au moins que ces rapports sont inefficaces.
Allez, le tour du monde continue avec un détour par chez nous. Tiens, ils sont français, les Diving with Andy. Et la chanson s'appelle Sugar Sugar.
I wake up with the sunrise. Rise and shine is but a lie. Lie down again before I even see. Seed cakes freshly. Up and I'm thinking, can you run it by no means? Means I will never ever brew ourselves a tea for two. Such a precious story, boy, you'll be my foil. Hang on, hold on, wait on till I decide. With the sunrise, rise and shine is but a lie. Lie up, it is my other middle name. Name and shame me, please, please me. You take me for your new queen. Queen cakes are beyond your means. Means I will never ever.
Diving with Andy, ça s'appelle Sugar Sugar. Vous connaissez Diving with Andy, Amélie Perrier, ou pas?
Un peu, ça me dit quelque chose.
J'en étais sûre, ça m'énerve. Power Hit Radio. Magic FM.
T'es arrivé là-dessus, là. Desservi, prise faux. 60 minutes.
Voilà, à cause de vous, je me sens vieille, merci. On commence ce soir avec une campagne de lutte contre la drogue, un fléau parmi les étudiants au Royaume-Uni.
Aujourd'hui, c'est l'université de Buckingham qui demande à ses nouveaux inscrits de signer un contrat où ils promettent de ne pas prendre de drogue sur le campus. L'établissement a déjà autorisé des chiens renifleurs de la police, mais il veut aller encore plus loin pour devenir le premier campus britannique zéro drogue. Les étudiants qui enfreindraient la règle se verront offrir un plan d'aide, mais si cela se répète, ils pourront être exclus. Alors en fait, cette annonce, elle n'est pas isolée. Elle arrive quelques jours après une polémique sur un petit guide publié par l'université de Sheffield, cette fois, qui a perdu depuis un an deux étudiants à cause d'overdose.
Joanna was a funny little girl when she was growing up, but she always had
the widest. Alors là, une vidéo de la mère de Joanna Burns et du père de Paddy Bloor. Joanna a succombé l'an dernier après avoir pris de la MDMA en soirée, et Paddy, lui, vient de mourir, lui aussi, d'overdose. Une étude récente d'un syndicat étudiant concluait que 56% des jeunes avaient déjà pris ces substances, 39% en consommeraient régulièrement. Donc l'université de Sheffield, doublement endeuillée en plus de la vidéo, a décidé de publier un guide. Et parmi les conseils, celui-ci, si vous vous piquez, ne faites pas d'injection seule. On vous explique aussi comment prendre la MDMA, une forme d'ecstasy. Je cite, écraser le comprimé en poudre fine, tamponner le bout de votre doigt dans la poudre, ça vous donnera une dose moyenne de 100 mg, une dose standard, nous dit le guide. Et attendez une heure à deux heures pour que les effets soient complets pour juger s'il faut en prendre. Oui, c'est assez précis.
Donc,
un guide pas vraiment apprécié de tous. Le porte-parole de l'université de Sheffield a garanti qu'il ne s'agissait pas de fermer les yeux sur les problèmes de drogue, mais de donner des conseils pour prendre ses précautions.
Allez, vous êtes coincé dans les bouchons, bah rassurez-vous, ça pourrait être bien pire si vous rouliez à Lagos, par exemple.
Oui, Lagos, capitale du Nigeria, plus grande ville du continent africain et son port, l'un des plus importants aussi d'Afrique, géré par le groupe français Bolloré, d'ailleurs, avec deux autres firmes chinoises. Mais c'est l'un des plus saturés, surtout. Les équipements sont totalement dépassés et les files d'attente des camions ne cessent de s'allonger. Écoutez ce chauffeur, il s'appelle Joshua David.
Aujourd'hui, ça fait un mois, deux semaines et trois jours que je suis coincé dans ces bouchons et j'ai toujours pas déposé mes marchandises. Je ne dors pas parce que si on dort, des bandes de voleurs piquent les batteries, les pneus de secours, l'essence. Ils peuvent tout prendre dans le moteur, ces voyous.
Un mois et demi.
J'espère qu'il n'y a pas des produits frais.
Un mois et demi qu'il est bloqué. Et ça a des conséquences économiques, évidemment. 70 à 80% des recettes douanières du Nigeria se font là, dans ce port de Lagos. Mais avec autant d'attentes, les transporteurs commencent à regarder ailleurs, vers le port de Cotonou, par exemple, au Bénin voisin. En tout cas, les coûts de transport explosent. Le prix des marchandises s'en ressent pour les consommateurs. Des Nigérians eux-mêmes bloqués dans les embouteillages. Il est pas rare de passer 7 à 8 heures dans sa voiture, nous dit un reportage de la RTBF. Alors certains ont l'idée de quitter les routes pour le transport fluvial, pourquoi pas. Un quart de Lagos est recouvert d'eau. Le gouverneur veut développer un système de bateau-taxi, par exemple, et orienter chaque jour 2 millions de passagers sur les voies navigables. Sauf que les Lagosiens n'ont pas vraiment confiance dans les bateaux. Les opérateurs économisent trop souvent sur l'entretien. Il y a donc encore du travail avant de sortir de ces bouchons.
Allez, lui, c'est un Italien et pas question de le laisser s'embourber là dans les bouchons pour le coup.
Avec sa Ferrari, Fabio Barone vient de battre un record de vitesse aussi impressionnant qu'absurde. Sur l'une des routes les plus dangereuses du monde, dans la vallée du Dadès et dans l'Atlas au Maroc.
Non, mais il l'a commenté en plus.
Vai Fabio. Et là on demande le temps. Et ça se passe de traduction. Hein. Vai Fabio, et à la fin donc il demande le temps au volant de sa Ferrari 458 Italia. Barone a parcouru un peu moins de 8 km en 4 minutes 42 secondes 65 centièmes. Alors pour vous faire une idée de cette route très sinueuse et sans parapet, là où on passerait à 30 km/h d'habitude, Barone a atteint les 120 km/h. Alors absurde, vous me direz peut-être, mais le pilote italien en a fait aussi une opération caritative. Il a fait un don à un orphelinat. Si. Et il offre aussi les vidéos de la course à l'Office marocain du tourisme.
Voilà, bon esprit, bon exemple. Amélie Perrier.
Pourquoi pas.
Merci beaucoup, à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Mecca. Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo.
Les routes France Inter.
C'est en Suède que nous emmène l'escale reportage ce soir. La Suède qui, elle aussi, a eu une onde de choc MeToo, mais avec peut-être un impact un peu particulier. Dans ce pays où on ne plaisante pas avec l'égalité, avec le droit des femmes, les pétitions pour dénoncer le harcèlement ne se sont pas limitées au monde de la culture ou des médias. Il y en a eu des dizaines dans tous les milieux. Et depuis, le gouvernement a débloqué des fonds pour défendre la cause des femmes. Une loi sur le consentement a été votée, par exemple. Et vous allez voir qu'à certains égards, on est très en avance en Suède. C'est grâce à vous, Frédéric Faux, qu'on va comprendre tout ça. Vous allez d'abord nous parler des hommes, plus précisément de ces hommes qui sont déboussolés par MeToo. Ce qu'on peut entendre derrière nous, ce bruit, et très vite vous allez entendre ce bruit de respiration, c'est là où vous emmenez, vous allez nous expliquer ce que c'est. Je sens que ça va en faire rigoler certains et certaines, si je puis dire.
Eh bien, nous sommes sur la scène d'un théâtre de Stockholm. Il y a des matelas au sol où sont allongés une vingtaine d'hommes collés les uns aux autres qui respirent à l'unisson. Et celui que vous entendez parler, c'est Herman Ottosson. C'est le créateur de Raw Man, que l'on pourrait traduire par l'homme cru ou l'homme brut. Il organise des stages pour aider les hommes à retrouver leur masculinité.
Le but est de se connecter profondément à la respiration d'un autre homme, à sa force vitale. Nous travaillons aussi sur l'homophobie. Il faut être proche du corps d'un autre homme sans que ça paraisse bizarre. On fait des choses assez folles. Je veux que personne ne puisse nous entendre ou nous voir.
Alors impossible d'observer plus longuement ce travail sur le corps et le mental que propose Herman. Je l'ai donc retrouvé à l'extérieur pour avoir un peu plus d'explications.
MeToo a été quelque chose de bien. mais il y a beaucoup de dommages collatéraux. La masculinité est en crise, spécialement en Suède. Ils ont peur d'être perçus comme des menaces. Ici, les femmes sont autonomes. Elles n'ont plus besoin d'hommes. Enfin, si. Quand elles arrivent à l'âge de 36-38 ans et qu'elles veulent un enfant, elles vont au Danemark pour acheter du sperme. C'est triste. Il y a même des femmes qui m'envoient leur mari quand elles pensent qu'il est trop faible, trop perdu. Je les reçois et je leur rends un homme nouveau.
Des hommes déboussolés par MeToo en Suède, il y en a. Mais il y en a d'autres aussi qui se sont adaptés à ce nouveau monde. Autour des aires de jeux pour enfants à Stockholm, les pères sont presque aussi nombreux que les mères. Ils sont incités à prendre leurs congés parentaux, qui sont ici très généreux, et les plus motivés fréquentent même des groupes de pères. C'est là que nous retrouvons Frédéric et Eric, deux jeunes papas qui se promènent souvent avec un gamin à la main et un gobelet de café au lait dans l'autre. En Suède, on appelle ça les papas lattés.
C'est un terme qui peut paraître un peu péjoratif, mais je pense que c'est super. Moi, j'ai pris mes 8 mois tout d'un bloc. Mon patron ne peut rien dire.
Comme il dit, c'est un droit en Suède de prendre son congé parental. Et c'est important pour moi aussi, car je veux passer du temps avec mon enfant. Plus tard, il pourra se tourner vers moi pour parler d'un problème, comme il pourrait le faire avec sa mère. Même si on n'en est pas encore là, dans d'autres pays, c'est un changement qui va arriver.
Alors là où ça bouge aussi, c'est sur le front des entreprises. Nous sommes dans un séminaire de formation organisé par Allbright. Tous les ans, cette fondation publie un classement de la position des femmes au sein des grandes entreprises suédoises. Et les résultats, comme le déplore Jennifer Rosten, ne sont pas à la hauteur d'un pays comme la Suède.
Les entreprises suédoises sont les pires quand on s'intéresse à l'égalité des genres. Lorsqu'on parle des femmes qui sont dans des positions de pouvoir dans les entreprises, c'est seulement 10% des postes. Donc nous avons fait 3 listes. Une liste verte avec les entreprises où il y a au moins 40% de femmes dans le management, une liste jaune quand il y a au moins une femme et une liste rouge quand il n'y en a aucune. On rend tout ça public et c'est la honte pour ces entreprises. C'est une méthode controversée, mais ça marche.
La Suède a une tradition féministe très ancienne et ici, on n'hésite pas à montrer du doigt ceux qui résistent au changement. Il y a même une Suédoise qui s'en est fait une spécialité, c'est Linnea Claesson. Cette handballeuse professionnelle a un compte Instagram très suivi qui s'appelle Assholes Online, les trous du cul en ligne. C'est un site de délation, oui, mais elle assume complètement ses méthodes.
J'expose le harcèlement sexuel que je subis sur le net. Et je me moque de certains de mes prédateurs. Je les dénonce, parfois même auprès de leur mère. Ça rend les hommes très en colère, car souvent ils pensent que je n'ai pas le droit de leur répondre. Donc ils m'envoient des photos de leur sexe, et moi je la poste sur leur mur Facebook. Ça les fait enrager. Chaque semaine, je reçois des menaces de mort, d'enlèvement et de viol.
Alors quelques semaines après le début de MeToo, hein, c'était l'année dernière, 7 Suédois sur 10 pensaient déjà que ce phénomène aurait des conséquences à long terme. L'avenir finalement leur aura donné raison.
À Souls Online, et ben on a des noms, figurez-vous, Frédéric Faux à Stockholm pour Un jour dans le monde. Merci beaucoup et à très vite. Yellow Days, The Way Things Change, c'est sur la playlist de France Inter. Ça s'appelle Yellow Days, The Way Things Change sur France Inter, direction les États-Unis.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saint-Es.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
Le Monde, selon Trump, saison 2 et Grégory Phillips. Grégory, avec tout à l'heure à la Maison Blanche, la fin, ou en tout cas l'épilogue pour l'instant d'un feuilleton qui aura duré presque 3 mois, la prestation de serment du juge, désormais juge à la Cour suprême, Brett Kavanaugh. On a suivi ça évidemment de très près la semaine dernière notamment. Succès politique, on peut le dire, pour Donald Trump, mais oui. L'épisode laisse quand même une Amérique plus divisée que jamais, si c'était même encore possible.
Oui, c'est vrai que cette nomination du juge Kavanaugh, malgré les allégations de tentatives de viol qui ont pesé contre lui, laisse un pays extrêmement divisé. Écoutez ce que disait la porte-parole de la Maison Blanche, Kellyanne Conway. Elle était invitée hier de ABC et elle parle des démocrates.
Ils voulaient que l'Amérique voie en Brett Kavanaugh quelqu'un qui a participé à des viols collectifs. Et beaucoup d'Américaines, y compris moi, ont vu là une tentative d'assassinat politique. Il aurait pu arriver la même chose à nos maris, à nos fils, nos cousins, nos collègues ou nos frères. Et c'était injuste.
Ce soir donc, Fabienne à la Maison Blanche, cérémonie de prestation de serment pour le juge Kavanaugh qui prendra ses fonctions dès demain matin à la Cour suprême. Incontestablement, vous l'avez dit, victoire politique pour Trump. C'est le deuxième juge conservateur qu'il parvient à installer à la Cour suprême après Neil Gorsuch. Et puis sur Fox News, vendredi soir, l'ultra-conservatrice Laura Ingraham fêtait ça en ouvrant 2 bières sur le plateau avec son invité en direct. Écoutez, je vous propose voilà, le monsieur propose un selfie. Avec les 2 bières.
Okay. Smile.
Attendez, reculez un peu.
Boom.
Et là, le monsieur tombe de sa chaise et tombe du plateau.
L'accident de selfie, c'est un grand classique.
Exactement, mais en direct, c'est beaucoup plus rare. La scène a fait le bonheur des internautes américains. Ingraham, faut le noter, la présentatrice reprend la parole immédiatement sans ciller. C'est assez professionnel.
Ouais, il est sur votre compte Twitter et le mien aussi, puisque je vous ai retweeté. Faut la voir, cette vidéo, parce que c'est vrai que c'est à mourir de rire. Et puis le côté extrêmement raide de cette présentatrice qui ne rigole pas un seul instant, c'est quand même quelque chose. Allez, Donald Trump, très impliqué dans la campagne pour les élections à mi-mandat. C'est le 6 novembre. Prochain, donc un mois quasiment jour pour jour, 29 jours. Il est vraiment sur le terrain, Donald Trump.
Oui, 5 meetings en 7 jours. Samedi, c'était l'Arkansas. Demain, l'Iowa. Mercredi, la Pennsylvanie. Trump mouille la chemise dans la perspective de ces élections. Vous savez que les Américains sont appelés à renouveler 1/3 du Sénat et la totalité de la Chambre des représentants. C'est intéressant d'ailleurs, Fabienne, de regarder la carte des meetings politiques de Trump depuis son arrivée à la Maison Blanche. Ça se concentre essentiellement dans la région des Grands Lacs et le Midwest américain. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il va falloir conserver ces États comme le Wisconsin, par exemple, ou le Michigan, qui en 2016 avait basculé et voter Trump plutôt qu'Hillary Clinton.
Alors en tout cas, il y a un endroit, un hôtel en tout cas, où le président américain n'ira pas. C'est le Hilton Hotel qui vient d'ouvrir chez vous à Washington, un hôtel militant, citoyen, anti-Trump. Ça veut dire quoi ?
Oui, le Hilton Hotel DC vient d'ouvrir en fin de semaine dernière dans le nord de la capitale fédérale, hôtel que ses concepteurs qualifient de citoyen, le premier hôtel pour activistes, comprenez évidemment, plutôt démocrates. Alors il y a dans cet hôtel des conférences, une bibliothèque de livres politiques plutôt à gauche. Faut dire, Fabienne, que ici l'anti-Trumpisme est un business, il y a des librairies, des cafés, des restaurants qui jouent pas mal là-dessus à DC. 209 chambres pour cet hôtel anti-Trump, la nuit à partir de $200,
quand
le
même.
Militantisme ça rapporte... quand même pas mal ici dans la capitale fédérale. Et puis si ça ne vous plaît pas, il y a évidemment l'hôtel Trump, un peu plus cher je crois, qui est situé tout près de la Maison Blanche.
Voilà, donc c'est l'un ou l'autre, vous êtes en train de nous dire. On peut pas être dans un hôtel
Exactement.
Normal, donc bon, bah, très bien. Un peu de musique. Alors Grégory, ce qu'on écoute, c'est Taylor Swift. C'est pas tout à fait notre truc, peut-être à nous, mais c'est l'une des plus grosses vendeuses de disques aux États-Unis, si ce n'est la plus grosse. Elle a décidé de s'engager dans la campagne électorale pour les démocrates du Tennessee.
Oui, Taylor Swift, 28 ans, pas très connue en Europe, c'est vrai, mais qui, ici aux États-Unis, a vendu 40 millions d'albums.
Elle
a commencé.
Parce que vous êtes trop vieux, me dit Jean-Marc Four à l'instant.
Elle a commencé dans la country music. J'ai vu les débuts de Taylor Swift. Alors,
vous savez que c'est passé des choses depuis Bruce Springsteen, Grégory.
très appréciée de la jeunesse blanche américaine. Et donc, pour la première fois, elle s'engage politiquement pour les démocrates du Tennessee, expliquant qu'elle veut défendre le droit des personnes LGBT et des Noirs ici aux États-Unis. C'est très important, cet engagement. Taylor Swift, c'est 83 millions de personnes sur Twitter. Elle a plus d'abonnés que Trump. Alors, on a vu d'énormes stars ici soutenir des candidats démocrates. Vous vous souvenez, ça n'a pas toujours marché. Mm-hmm. Beyoncé ou Jay-Z avec Hillary Clinton en 2016. C'est même parfois contre-productif. Trump, lui, a pour l'instant le soutien du rappeur Kanye West. Et c'est à peu près tout pour lui dans les rangs du show business.
Grégory Phillips et Le Monde selon Trump, tous les lundis dans Le Jour dans le Monde. Merci Grégory.
Le 18-20, Fabienne Synthès sur France Inter.
Le Monde à l'envers et Jean-Marc Four. Jean-Marc, le spécialiste du climat, tire donc à nouveau la sonnette d'alarme. Le nouveau rapport du GIEC annonce que l'augmentation de la température d'1,5 degré sera effective d'ici 30 ans. Tout cela appelle un sursaut international. Dans votre monde à l'envers, vous vous dites, ces rapports du GIEC, ça sert à rien.
Oh, je vous l'accorde, je fais un peu de provocation. Hein. Disons qu'en tout cas, ces rapports sont inefficaces. Prenons celui d'aujourd'hui. En effet, je vous en ai apporté la première page ici en studio et Sébastien Pahour y reviendra plus en détail dans le journal de 19h. Sur le papier, rien à dire, c'est édifiant. 400 pages, dont 33 de résumés à destination des décideurs politiques. 80 scientifiques mobilisés, toutes les pointures mondiales, 195 États impliqués et des conclusions imparables, argumentaires détaillés à l'appui. Si on dépasse 1,5 degré de hausse de température, on court à la cata, pluie torrentielle, phénomènes climatiques extrêmes, hausse importante du niveau de la mer, famine, forte baisse des ressources en poissons, etc. Avec comme toujours à la clé un appel solennel à réagir au plus vite. Le problème, c'est que tout ça, on le sait déjà, je vous l'accorde aujourd'hui, on le sait de façon plus précise, mais en gros, on le sait déjà depuis plus de 30 ans, en fait. Depuis, les rapports et les sommets se sont succédés comme une ritournelle qui rythmerait les saisons. Lancement du GIEC en 88, sommet de la Terre à Rio en 92, COP21 à Paris en 2015, etc. Et c'est devenu une habitude. Tiens, un nouveau rapport du GIEC, tiens, un nouveau cri d'alarme. La tragédie grecque continue, on se rapproche de l'épilogue mortel et voilà tout. Mais fondamentalement, tous ces rapports et sommets ont-ils vraiment changé la donne de façon radicale? La réponse est non. On peut donc affirmer que ces rapports sont inefficaces. Pas inutiles, mais inefficaces.
Alors ce sont les rapports qui sont inefficaces ou ce sont les politiques auxquelles ils sont destinés?
Le problème, c'est peut-être justement qu'ils sont destinés aux politiques. Là, vous avez vu sur le document, je vous le montre, c'est écrit noir sur blanc sur le rapport d'aujourd'hui. Mmh. Summary for Policymakers. Et d'ailleurs, les réactions sont à peu près toujours les mêmes, très prévisible, des appels de scientifiques ou d'ONG relayés par nous, les médias, pour appeler les politiques, les décideurs politiques à faire plus et à faire mieux. Mais pour résumer, les politiques ne font pas plus et pas mieux. Pour trois raisons. Un, il y a ceux d'entre eux qui sont à moitié obscurantistes, qui ne veulent même pas reconnaître la réalité du changement climatique, suivent mon regard vers la Maison Blanche. Deux, l'action politique sur le sujet ne peut être efficace que si elle est coordonnée mondialement, et nous vivons dans un monde où la notion de gouvernance mondiale s'éloigne chaque jour un peu plus. Trois, les gouvernements des démocraties, a priori les plus sensibilisés au sujet, sont surtout préoccupés du court terme, la prochaine élection à venir, et c'est assez peu compatible avec le moyen terme de l'enjeu climatique. Donc tout ce qu'il reste aux politiques, c'est la communication, claironner que l'on fait, même si l'on ne fait pas beaucoup. Relevons par exemple que la France a en réalité augmenté ses émissions de CO2 depuis 2015. Bref, renvoyer la balle aux politiques, c'est inefficace et en plus ça dédouane les autres acteurs.
Et donc les autres acteurs, c'est...
D'abord c'est vous et moi, et c'est à vous et moi que le GIEC devrait d'abord s'adresser et devrait d'abord interpeller. Vous voulez contribuer, vous, perso, à la lutte contre le réchauffement? Eh bien, mangez moins de viande, moins de lait, moins de fromage, mangez des produits locaux, utilisez le vélo sur les distances courtes, évitez l'avion, isolez votre maison, etc. Bon, évidemment, là, on fait le pari que l'homme est prêt à abandonner sa passion destructrice et à s'occuper de son prochain. C'est pas gagné, c'est un pari philosophique. L'autre acteur, c'est le monde économique, parce que, bon, on va pas chipoter, l'essor des gaz à effet de serre en particulier est indissociable de notre fuite en avant, de cette fuite en avant de la consommation dans notre modèle économique. Une petite devinette toute simple, révélatrice. Au cours des 20 dernières années, les émissions au niveau mondial n'ont diminué que pendant une année. Vous savez laquelle ? 2008-2009, c'est-à-dire la crise économique et financière. Il n'y a pas de hasard. Le sujet du climat est indissociable de la question du modèle économique et on ne la résoudra pas sans interpeller vivement les très grandes entreprises. Vous me direz, ça c'est un pari encore plus audacieux que le précédent sur la nature humaine. C'est possible. Mais sinon, à se contenter d'interpeller les politiques, on risque fort de continuer à foncer dans le mur. Et on dira la même chose au prochain rapport du GIEC. C'est juste que le mur se sera encore rapproché.
Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers, merci beaucoup. À demain, le 18-20, la suite juste après ça.